Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, les jeunes sont-ils bons pour le service ? Qu'il est doux le son du clairon, à l'heure où la bouche est encore pâteuse et l'haleine encore incertaine. Dès lundi, dans 13 départements test, quelques 2000 jeunes vont expérimenter le service national universel et ses journées organisées au cordeau. Réveil à 6h30, salut au drapeau et hymne national à 8h. Puis toute une série de modules proposés aux volontaires pendant une première session de 15 jours, des valeurs républicaines à la défense de l'environnement, en passant par exemple par un bilan de santé ou une initiation au code de la route. La deuxième session consistera en une mission d'intérêt général. Le SNU voit enfin le jour. Les nostalgiques de l'épluchage de pommes de terre y verront une version édulcorée et considérablement raccourcie de ce que fut le service militaire. Mais l'objectif n'est pas tout à fait le même. Il s'agit cette fois de renforcer la cohésion républicaine et d'encourager l'engagement sur la base du volontariat pour commencer, avant de devenir obligatoire en 2021 et universel pour les filles et pour les garçons. Alors on ne peut pas dire que les organisations de jeunesse sautent de joie à l'idée de ce SNU. Plusieurs d'entre elles ont manifesté leur opposition en considérant que ce n'était pas à leur génération de porter la responsabilité des fractures de l'ensemble de la société. Alors les jeunes sont-ils bons pour le service ? C'est le thème de notre discussion ce soir en compagnie de trois invités. Nadia Bellaoui, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire générale de la Ligue de l'enseignement. Rappelons d'un mot ce que c'est que cette Ligue de l'enseignement.
Une confédération d'associations éducatives, culturelles, sportives, présente dans 24 000 communes, un mouvement d'éducation populaire.
Vous avez été une des cinq garantes du bon déroulement du grand débat national, non pas la Ligue, mais vous, hein, Nadia Bellaoui. Et la Ligue a signé une convention de partenariat il y a quelques jours de cela avec le secrétaire d'État chargé de la jeunesse sur ce dossier justement du service national universel. Pour en discuter avec vous, Lila Lebas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseillère au CESE. Le CESE, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Vous y êtes membre du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse. Vous êtes ancienne présidente de l'UNEF et vous avez co-signé, c'était en octobre dernier, dans Le Monde, une tribune contre le SNU. Vous aurez évidemment l'occasion de nous expliquer pourquoi. Et puis notre troisième invité, Valérie Becquet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, professeur à l'université de Cergy, spécialiste de l'engagement des jeunes. Vous avez consacré de nombreux articles et ouvrages à cette question. Quel est celui que vous aimeriez citer ? Le dernier ou le plus emblématique peut-être autour de cette question de l'engagement des jeunes ?
Peut-être que vous pouvez citer Jeunesse engagée qui est paru certes en 2014 mais qui réunit un certain nombre de contributions qui mettent en évidence la variété des engagements juvéniles.
Eh ben voilà, ça vient d'être fait, c'est vous qui l'avez cité. Valérie Becquet, et je vais poser d'ailleurs la même question à vous trois, Lila Lebas et Nadia Bellaoui. Le SNU, c'est donc trois lettres, Service National Universel. Laquelle de ces trois lettres, pour vous, est la plus importante, en tout cas peut-être la plus novatrice, Valérie Becquet ? C'est le service, c'est le national ou c'est l'universel ?
Aucune d'elles, en fait. Aucune d'elles, dans le sens où elles renvoient toutes à des éléments qui sont inscrits historiquement et qui, visiblement, en France, on n'arrive pas, en fait, j'ai l'impression, à dépasser l'arrêt de la conscription obligatoire. Et on nous, y a une logique depuis 1997 de hoquet de l'action publique, de recyclage de formes d'action, enfin de formes d'engagement. Donc, je pense que non, il n'y a rien de novateur dans ce SNU.
Est-ce que vous êtes loin de là. Vous êtes d'accord avec ça, Nadia Bellaoui ?
C'était pas exactement votre question, mais
si peut-être parce qu'on peut dire que le service a déjà existé, la dimension nationale également, l'universalité. Alors où s'arrête l'universalité ? Est-ce que quand c'était seulement les garçons qui faisaient le service militaire, est-ce que ça l'était pas tout à fait ? Est-ce qu'aujourd'hui, quand ce sont que les jeunes, est-ce que ça l'est peut-être pas tout à fait ? C'est ce que nous dira sans doute dans un instant Lila Lebas.
L'enjeu d'avenir, il me semble, c'est la question de l'universalité. Quand même, ça ne touche pas particulièrement les jeunes, mais l'ensemble de la société. Il est important dans ce pays que nous soyons tous certains d'avoir une place dans la société, d'appartenir à une société de semblables, d'avoir plus de choses en commun avec son voisin que d'intérêts particuliers. Donc l'universalité est devant nous. Il est important que des politiques publiques s'intéressent à cette dimension-là, en particulier chez les jeunes qui contrairement à leurs aînés, sont spontanément moins inclus dans le vote, dans la participation. Donc il y a une attention particulière à avoir aux jeunes, plutôt que de les considérer justement comme des problèmes, mais plutôt à les soutenir.
Donc en tout cas, vous retenez le U de universel, et vous, Lila Lebas?
Moi, je retiens aucune de ces lettres. Je retiens surtout le côté obligatoire de ce service. Et encore une fois, uniquement pour des jeunes. On va imposer un service national aux jeunes pendant une durée d'un mois obligatoire, deux semaines dans un cadre d'encadrement collectif, deux semaines dit d'engagement. Encore une fois, c'est aussi toute la notion d'engagement qui est questionnée. Et donc, moi, ce que je retiens surtout, c'est que encore une fois, on reposait sur les jeunes tous les maux de la société. On voudrait recréer de la cohésion sociale et ça serait aux jeunes, ce serait les jeunes qui seraient responsables qu'il n'y en ait pas assez. Et donc c'est ça le principal problème qu'ont les organisations de jeunes qui ont signé cette tribune, qui sont aussi pour quelques-unes d'entre elles représentées au CESE et qui justement s'opposent à ce côté obligatoire.
Pourquoi est-ce que vous dites encore une fois, vous avez le sentiment que c'est très souvent sur les jeunes que l'on fait peser cette responsabilité-là, moi qui n'appartient plus à cette catégorie, j'ai l'impression que c'est quelque chose là pour le coup d'assez répandu, enfin en tout cas cette responsabilité de ces fractures et de ces difficultés à obtenir davantage de cohésion républicaine puisque ça fait partie des objectifs de ce SNU.
C'est juste que malheureusement, souvent on colle des étiquettes, notamment aux jeunes, pas seulement, mais l'étiquette qu'on colle aux jeunes, c'est ceux d'une génération qui serait plus individualiste, qui ne s'engagerait pas, qui serait sur son smartphone à longueur de journée plutôt que d'aller communiquer, militer ou autre avec pour des causes à défendre, qui s'abstiendrait aux élections sans poser la question de pourquoi, qui serait désintéressé du collectif au sens large, de la chose publique. Et donc c'est en ça que je dis, encore une fois, on fait reposer sur les épaules des jeunes une responsabilité qui incombe à toute la société. Et donc vous l'avez un petit peu dit, si ce service national était véritablement universel, ça serait toute la société qui serait obligée, quel que soit l'âge, à un moment de donner deux semaines de son temps pour pouvoir servir et faire des choses. Là, ce n'est pas le cas, c'est seulement des jeunes entre 16 et 18 ans en moyenne qui sont ciblés par ce service national universel.
Mettre en place ce SNU, Valérie Becquet, c'est une façon, si ce n'est de stigmatiser les jeunes, en tout cas de les pointer particulièrement dans une forme de responsabilité qu'ils devraient avoir pour faire évoluer la société.
En fait, si vous regardez toute l'histoire des politiques de jeunesse depuis l'après-Seconde Guerre mondiale ou même pendant Vichy, on voit que les jeunes, c'est un peu... Il y a toute une rhétorique autour de la responsabilité des jeunes, que ce soit dans le fait de sauver la nation, que ce soit dans le fait de la reconstruire et aujourd'hui dans le fait de maintenir cette cohésion sociale. Donc c'est une réalité dans les discours sur les jeunes et la place qu'on leur donne. C'est toute une rhétorique, en fait, politique qui a été construite comme ça et qui ne change pas, en fait, si vous regardez mais les politiques contemporaines, c'est totalement ça. Le SNU, c'est ça. Quand il y a eu après les émeutes de 2005, le discours de Jacques Chirac et la création du service civil volontaire qui n'y a été balbutiant, il a parlé aux fils et filles de la République. On était à nouveau dans cette rhétorique. Pendant toutes les campagnes électorales qui ont succédé, ça a été la même rhétorique. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans ce pays, peut-être moins ailleurs dans d'autres pays européens, mais en France, il y a très clairement cette tendance-là dans les discours.
Nadia Bellaoui.
Effectivement, la rhétorique politique, pour reprendre la formule de Valérie Becquet, sera très importante à observer. Le service national universel ne prendra, le débat parlementaire par exemple autour de la généralisation d'un tel service ne sera digne, presque j'allais dire, que si la phase pilote, l'évaluation de la phase pilote se fait avec une rhétorique politique honnête, intellectuellement lucide sur la réalité qui est celle que décrivait Lila Lebas. C'est-à-dire que les jeunes s'engagent, les jeunes ne sont pas plus individualistes que le reste de la population. Même quand on interroge les jeunes sur leurs valeurs, il y a une valeur qu'ils distinguent particulièrement par rapport à d'autres catégories de la population, c'est l'amitié. Vous voyez, les jeunes ont des valeurs assez proches des nôtres, mais en plus, ils ont un souci particulier pour leurs amis, des relations humaines satisfaisantes. Ce sont plutôt les modalités d'engagement qu'on leur propose ou de participation qu'on leur propose qui doivent s'adapter, qui doivent évoluer pour s'adapter à leurs attentes.
Donc, mais est-ce que pour vous, Nadia Bellaoui, à la Ligue de l'enseignement, vous considérez que le SNU, alors vous faites bien de le rappeler, hein, phase expérimentale qui commence lundi, qui va durer plusieurs mois. Pour l'instant, on est sur 13 départements, 2000 jeunes. Évidemment, c'est un échantillon qui a été voulu comme étant représentatif, mais qui ne représente qu'une petite minorité de ce que sera le dispositif quand il sera, s'il l'est généralisé à l'ensemble du territoire et à l'ensemble de cette tranche d'âge. Mais est-ce que vous, vous considérez qu'en tout cas, ce SNU peut permettre aux jeunes et à leurs valeurs de s'exprimer encore davantage qu'elles ne s'expriment aujourd'hui dans les cadres qui sont les leurs, cadres associatifs, cadres politiques, cadres militants.
Toutes nos interventions vont dans ce sens. L'équilibre aujourd'hui trouvé entre, disons, les trois univers qui prennent en charge le service national universel dans sa phase pilote, le monde de la défense, le monde de l'éducation nationale et celui de l'éducation populaire, l'équilibre trouvé est plutôt encourageant. Hein. La manière dont la phase pilote est lancée est plutôt encourageante de ce point de vue-là. Mais je ne préjuge de rien, nous allons voir sur pièce. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faudra être très attentif à la manière dont les jeunes qui ont vécu cette phase pilote en parleront, retiendront un message d'encouragement ou au contraire un message de remise au pas. Quoi. Si ça devait être ça, à ce moment-là, il faudrait que les uns et les autres nous fassions évoluer notre point de vue. Mais à ce jour, le point de vue est plutôt équilibré. D'ailleurs, les jeunes sont attentifs, sont curieux de ce que ça va devenir.
Est-ce que ça vaut pas le coup quand même d'expérimenter, de tenter cette expérience Lila Lebas et de voir comment ça évolue et en fonction de ce que donnera ce dispositif, peut-être de se positionner de manière un peu plus radicale pour ou contre ce SNU? Ou bien est-ce que vous pensez que le verre est déjà dans le fruit et que ça ne pourra pas donner autre chose que ce que vous décrivez?
Je pense que le verre est déjà dans le fruit, ça c'est un fait, notamment quand on regarde un petit peu les objectifs affichés sur Internet, par exemple du SNU, accroître la cohésion et la résilience de la nation. Encore une fois, on a un langage où on va imposer à des jeunes cette responsabilité. Mais au-delà de ça, je pense qu'il existe de nombreux dispositifs aujourd'hui qu'il faudrait renforcer pour véritablement valoriser et permettre aux jeunes de s'engager. On l'a dit, les jeunes aujourd'hui, ils s'engagent, ils souhaitent le faire. S'ils ne le font pas, c'est qu'il y a des raisons, parfois parce que ils sont en recherche d'emploi, en insertion professionnelle, du coup c'est compliqué, parfois parce qu'ils sont étudiants, ils sont salariés à côté, parfois ils veulent faire des services civiques, c'est un outil qui existe, mais ils ne trouvent pas forcément de place dans des structures où ils veulent le faire. Et donc il y a des outils qui existent aujourd'hui pour permettre aux jeunes de s'engager, et au lieu de bénévolement, encore une fois, puisque ça pour moi c'est en tout cas sur la base du volontariat, ça me semble important. Et au lieu de renforcer l'engagement volontaire des jeunes, on veut les contraindre, on veut passer par la contrainte pour pouvoir permettre cet engagement-là, ce qui, moi, me semble, de base, quelque chose qui ne va pas dans le bon sens. Donc je pense qu'il faudrait renforcer, par exemple, le service civique, qui est un vrai outil pour permettre aux jeunes de s'engager dans des structures, de pouvoir réaliser leur projet, au lieu de pouvoir créer un nouveau dispositif qui va vouloir contraindre des jeunes, puisque l'objectif, c'est quand même qu'il soit obligatoire.
Alors on va revenir évidemment sur le service civique pour voir si c'est un dispositif qui peut être complété par le SNU ou bien s'il peut y avoir aussi peut-être des frictions, des contradictions entre ces deux dispositifs. Mais puisque vous évoquiez l'intérêt, la curiosité, Nadia Bellaoui, que peuvent avoir certains jeunes par rapport à ce service national universel, écoutez cet extrait d'un reportage qui a été diffusé hier sur France Info et qui est signé Anne-Laure Bouzige.
En fait, le carnet de santé, c'est juste pour le bilan de santé que tu vas faire le premier jour.
Ils vont partir notamment en Creuse, en Guyane, dans le Morbihan ou encore dans le Cher ou le Vaucluse. Voilà ce qu'ils attendent de ces deux semaines loin de chez eux.
De passer des bons moments, de se retrouver soi-même et de pouvoir faire plein d'activités, perdre du poids aussi.
J'aimerais bien aussi le faire pour découvrir des nouvelles personnes, etc.
Et voir un peu les valeurs de la France, voir un peu comment marche l'armée, ça peut être intéressant.
Et toi, qu'est-ce que t'attends du SNU ?
Je me transforme en tant que citoyenne, découvrir de nouvelles choses et de nouveaux paysages aussi.
Tu vas où ?
dans le Morbihan.
Déjà, c'est gratuit et je trouvais que c'était une super expérience à vivre dans son adolescence.
L'idée du SNU, c'est donc de découvrir d'autres territoires, autre chose que sa vie du quotidien et être avec des jeunes qui vivent des situations différentes. Enzo, par exemple, est en décrochage scolaire. Sa mère espère beaucoup du SNU.
Il est complètement déscolarisé et il ne fait plus rien. Il y a un déclic un peu dans la tête que la vie, elle n'est pas facile et voilà. La vie, c'est pas que de dormir et rien faire.
Donc tu penses que ça va permettre de te rebooster un peu?
Je pense, ouais, mais on met dans le droit chemin un peu.
Le reportage d'Anne Nurbouzic de France Info auprès donc de quelques-uns de ces volontaires qui vont rejoindre ce dispositif SNU à partir de lundi. Bon, on a entendu beaucoup de choses hein, dans ces témoignages, Valérie Becquet, notamment l'envie de changer un petit peu d'atmosphère, de changer de paysage. Les voyages forment la jeunesse. Si le service national universel y contribue, c'est intéressant, non?
Disons que, enfin, moi, ce que j'ai noté dans ce reportage, c'est, alors peut-être c'est changer effectivement de territoire, mais c'est surtout l'idée de, j'ai entendu, se découvrir, se retrouver, et ça fait écho à des recherches que nous on a fait sur l'engagement des jeunes, où il y a une dimension de construction de soi, en fait, de une dimension identitaire très forte, au sens où on va se construire soi à travers du collectif. Alors, je ne dis pas que, enfin, disons que le fait qu'ils soient ensemble, mais ça pourrait être une colonie de vacances. Hein. C'est pas obligé que ce soit le service national universitaire. Hein, donc je relativise bien le propos. Le fait de
se vivre ensemble, faire des
projets collectifs, c'est un format qui indéniablement a des effets chez les jeunes. Et aussi l'idée de comparer ces parcours, parce que quand on voit que chez l'autre le décrochage chez d'autres personnes ou d'autres ont réussi ou le partage des conditions de vie, ça crée des expériences communes. Alors le SNU, c'est juste un cadre parmi d'autres. Et là, ce serait important aussi de le remettre en perspective justement avec le service civique, mais aussi avec la journée défense et citoyenneté qui existe quand même actuellement. Comment ça s'emboîte, toutes ces choses, comment ça s'emboîte de manière intelligente pour que ça s'inscrive dans les parcours des jeunes et non dans la simple satisfaction d'un gouvernement. Vous voyez, il faut savoir pour qui on travaille exactement.
Nadia Belaoui, je vous vois acquiescer à ce que dit Valérie Becquet.
Absolument, je pense que le service national universel, comme d'ailleurs le service civique, c'est une façon de reconnaître que la nation a besoin que les jeunes s'épanouissent, qu'ils s'organisent collectivement pour inventer, y compris les formes politiques, démocratiques de demain. Enfin, je veux dire, c'est plutôt un message d'avenir. C'est en ce sens que, en tout cas, nous envisageons le fait qu'on investisse dans l'accueil de tous les jeunes. C'est parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, c'est accueillir une génération, puis les générations suivantes, et progressivement faire en sorte que toute la population, finalement, soit initiée à l'autre, finalement, dans un cadre nouveau et complémentaire de l'école. Enfin, bon, je suis secrétaire générale de la Ligue de l'enseignement, et pour nous, la question de la mixité sociale est décisive. En principe, l'école républicaine devrait être un creuset social plus important. Mais on sait très bien tous que les stratégies scolaires conduisent finalement nos enfants à aller à l'école avec des enfants qui leur ressemblent. Donc, organiser le fait que nous croisions les uns et les autres des modes de vie différents des nôtres, c'est quelque chose de vraiment décisif. La mobilité, et c'est différent d'organiser de la mixité sociale quand il y a des nuitées, un temps de vie un peu long que à l'école. Donc voilà, l'enjeu, c'est, pour moi, c'est en ce sens que je choisissais le terme universalité comme un élément décisif. En fait, plus précisément, c'est d'organiser des rencontres et de la mixité, notamment sociale, culturelle, de territoire.
C'est vrai que c'est un élément qui est fortement mis en avant à travers ce service national universel, Lila Lebas, c'est-à-dire l'idée qu'il faille favoriser la mixité sociale, alors certes sur un temps réduit, mais en accueillant tous les jeunes, et pour accueillir tout le monde, si ça se passe sur la base du volontariat, on risque de ne pas avoir justement cet effet de masse. Donc il faut bien les inciter à venir de manière peut-être un petit peu forte, mais pour que cette mixité sociale, elle existe, même si ça ne dure que 15 jours ou même si ça ne dure qu'un mois, c'est toujours mieux que si ça n'existe pas du tout, non ?
Oui, tout à fait. Moi, les objectifs de mixité sociale, c'est quelque chose que je partage et je suis tout à fait favorable. En revanche, je pense que ce n'est pas le bon outil. Ça a été dit, il y a des outils qui existent. Par exemple, je pense que l'enjeu de mixité sociale, effectivement, il doit passer par l'école. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a des stratégies d'évitement énormes qui permettent effectivement de reproduire des classes avec des enfants qui viennent des milieux sociaux similaires. En revanche, je pense que si cet objectif-là, comme c'est avancé par le gouvernement, est une priorité, on peut agir sur l'école, sur comment l'école s'organise aujourd'hui pour permettre justement dans un cadre donc tout au long de la scolarité, pas uniquement sur 15 jours, même si 15 jours c'est des choses de prise, c'est pas une critique, mais en tout cas on peut agir tout au long de la scolarité pour permettre à des jeunes de vivre cette mixité. Et on peut aussi réfléchir justement, ça a été dit, la collectivité c'est pas uniquement en journée, c'est aussi en nuitée. Avec les colonies de vacances, avec on sait bien tout ce qu'apportent les colonies de vacances et la plus-value que ça peut avoir. Comment on peut faire en sorte par exemple, de mixer des classes scolaires qui viennent de collèges, de lycées différents, de milieux ruraux, de milieux urbains, pour se faire rencontrer justement des jeunes qui vivent des choses différentes. Et je pense que ce serait beaucoup plus intéressant d'utiliser ce cadre-là, qui est l'école et qui est déjà un cadre obligatoire, jusqu'à 16 ans, pour l'instant, et qui, plutôt que de rajouter un nouveau cadre, sous couvert, encore une fois, d'engagement, puisque c'est quand même pour nous un antagonisme.
Mais dans le petit reportage qu'on entendait et dans les attentes qui étaient celle de ces jeunes volontaires. Alors, je ne sais pas si ce sont des attentes qui seront déçues une fois qu'ils auront terminé ce premier service national universel. Mais il y avait presque aussi l'idée qu'on partait un petit peu en colonie de vacances. C'est pris en charge en plus par la collectivité. Ça ne coûte rien. Finalement, voilà, c'est...
Ouais. Oui, je pense que
ça fait aussi partie, non?
Je pense que par exemple, si le gouvernement mettait en place une vraie politique ambitieuse et incitatrice à destination des colonies de vacances pour permettre aux jeunes, aux familles qui n'ont pas les moyens de pouvoir partir, il y aurait un vrai engouement. En revanche, ce que vous avez décrit au départ, lever à 6h30 du matin, lever du drapeau, etc.
J'ai parlé du clairon d'ailleurs, je tiens à préciser, je n'ai pas la moindre idée s'il y aura du clairon ou pas au départ. Voilà, c'est
en tout cas,
très très incertain de ce que a pu être le service militaire obligatoire.
En tout cas, je trouve que ça résonne très mal avec la notion de colonie de vacances. Et justement, colonie de vacances, c'est aussi l'apprentissage par le plaisir, par la découverte de l'autre, par la découverte d'activités, de territoires. Et je trouve que les objectifs affichés par le SNU aujourd'hui sont quand même un petit peu à l'opposé de ces objectifs-là. Et donc, on ferait mieux d'investir et de développer des outils qui existent pour permettre justement cette mixité et potentiellement aussi initier, développer des engagements volontaires des jeunes qui demandent que ça.
Oui, alors moi, je vais prendre la peau du vieux schnock, mais je vais dire, écoutez, les jeunes, c'est bien qu'ils prennent un peu de plaisir, mais c'est bien aussi de leur apprendre à quel point la vie est rude, qu'ils ont des responsabilités dans la vie future, et qu'il faut aussi leur montrer. Mais oui, mais est-ce que c'était pas ça aussi, ce bon discours qu'on avait au temps glorieux du service militaire, Valérie Becquet?
C'est peut-être un discours que l'on avait, mais les conditions de vie des jeunes générations au temps du service, je ne sais pas à quel moment vous le mettez. Il faut savoir quand même qu'à partir des années 60, l'accès au service, la mixité sociale n'était plus vraiment respectée dans la conscription. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu les formes civiles du service national, ensuite avec le développement de l'objection. Bon, l'objection, c'est particulier. La mixité sociale, non, en plus, on sait qu'il y a une...
Il y avait les classes quand même.
Oui, mais...
Ça
durait pas très longtemps. Il y a une hiérarchie entre les armées. Enfin, faut faire attention avec cette espèce d'image un peu d'épinal autour du service militaire. Mais je voudrais juste rebondir sur le côté plaisir, etc. C'est que quand on voit les objectifs, l'idée de transmettre un socle républicain, renforcer la cohésion nationale, développer la culture d'engagement, etc. Moi, ce qui serait intéressant dans cette expérimentation, c'est que quelque part, on demande aux jeunes ce qu'ils mettent derrière. Plutôt que de leur faire un énième programme d'éducation civique et morale, puisqu'ils en ont quand même depuis l'école primaire, on peut imaginer qu'ils ont appris quelques trucs à l'école, on pourrait imaginer que derrière ces objectifs assez froids, somme toute assez froids dans leur formulation, eux, ils inventent aussi ce que eux définissent. Qu'est-ce que la culture de l'engagement? La culture de l'engagement pour l'éducation nationale, pour le ministère des Armées ou pour l'éducation populaire, c'est pas du tout la même chose. Donc, qui va dire, qui va définir des normes? Parce que c'est ça qui va jouer, en fait, dans ces contenus. C'est qui va dire ce qui mérite d'être appris, ce qui fait sens, etc. Donc, l'obligation, elle peut faire sens pour les jeunes à partir du moment où le contenu, c'est-à-dire ce qu'on va la manière dont on va remplir l'enveloppe, résonne indéniablement avec leur quotidien. Ça, on ne peut pas vraiment y échapper.
Je vais citer la Ligue de l'enseignement, Nadia Bellaoui. Ah oui, oula, je vous vois très attentive et un peu inquiète.
Pas du tout.
L'expérience du service civique, on parle du service civique, hein, confirme que les cadres d'engagement co-construits dans une complémentarité entre les pouvoirs publics et le monde associatif ne dissuadent pas de l'engagement, mais contribuent au contraire à le renforcer. Ce que vous dites du service civique devrait être valable également pour le service national universel, c'est-à-dire une coopération, une co-construction qui peut permettre justement de partager ces différentes expériences de ce qu'est l'engagement des jeunes.
L'engagement des jeunes aujourd'hui est un engagement associatif. Et traditionnellement, il revient à une responsable associative de défendre l'engagement associatif, et bien sûr, je ne vais pas y manquer. Mais quand même, l'engagement associatif reproduit les inégalités. On s'engage d'autant plus facilement qu'on est bon à l'école, qu'on appartient à une famille qui a des repères et qui, évidemment, sait que ce qu'on va apprendre dans l'engagement va être complémentaire de ce qu'on apprend à l'école, va participer à la réussite sociale, scolaire, puis sociale.
Bon, oui, parce qu'il faut d'ailleurs préciser que voilà, ce sont des capacités qui sont très valorisées aujourd'hui pour les jeunes, par exemple quand ils passent dans l'enseignement supérieur, quand ils passent des concours. C'est-à-dire s'ils ont fait du bénévolat, ça va être plutôt bien vu. Mais pour ça, il faut savoir qu'on peut le faire et savoir où le faire, c'est ça?
Voilà, exactement. Donc dans nos associations, parmi les jeunes qui s'engagent, il y a plus de catégories disons de milieux favorisés que de milieux défavorisés. Pour vous donner, la Ligue de l'enseignement développe un programme pour les mineurs de junior association. Une des principales valeurs que trouvent les jeunes quand dans des quartiers politiques de la ville ils s'engagent dans les junior associations, c'est que pour la première fois ils sortent de leur quartier. Enfin, je veux dire, c'est donc aller chercher justement les publics, les familles qui spontanément ne préparent pas leurs enfants à s'engager, c'est quelque chose d'important. Mais tout dépend effectivement les conditions. Et la rhétorique politique, le message, la manière dont ça va être reçu par les jeunes. Si le message est de dire, justement, comme le disait un jeune lui-même, on va me remettre dans le droit chemin, si c'est ça qui est entendu, ça ne fonctionnera pas. On n'investira pas, il y aura un conflit ouvert avec la jeunesse et personne ne peut le souhaiter, quoi. Donc il est très important d'associer les organisations de jeunesse, effectivement d'associer les jeunes dans la mise en œuvre de la phase pilote, et puis de peut-être que la généralisation soit progressive, pour une fois, allons au bout de l'expérimentation. Ne concluons pas qu'elle est positive avant même qu'elle ait eu lieu.
Sur les problèmes de mixité sociale, pour y revenir encore un instant, Valérie Becquet, par rapport à ce que dit Nadia Bellaoui, donc l'engagement associatif, en tout cas, témoigne justement de ces disparités sociales. Est-ce que c'est aussi le cas du service civique? Service civique donc a été lancé en 2010, qui était censé ouvrir justement ces portes à une masse importante de jeunes. Je crois qu'un des objectifs qui avait été assigné, c'était autour de 350 000. Bon, on n'en est pas là aujourd'hui. On est autour de quoi? Je crois 130 000, me semble-t-il, par an. Il me semble que sont à peu près les chiffres. En tout cas, est-ce que le service civique n'a pas contribué quand même à réduire un petit peu ces fractures sociales?
C'est le cas à partir du moment où les organisations d'accueil ont fait un effort de recrutement ouvert et de mise à disposition de missions accessibles à tout un chacun, c'est-à-dire le fait de ne pas disposer d'un bac plus 5 pour réaliser la mission. Donc, très simplement, il est ouvert à tout le monde. Sauf que tout dispositif ouvert à tout le monde porte en lui son mécanisme de sélection sociale, en fait. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. C'est les associations, c'est ça, etc. C'est ça. Bon. Donc, il y a tout un ensemble d'organisations qui ont eu des politiques volontaristes de recrutement et donc de sélection de jeunes issus de milieux sociaux différents. Et ça, c'est venu des organisations parce que le dispositif tel qu'il est pensé ne le permet pas, ne le favorise pas.
En fait, alors ça, du coup, ça plaide plutôt justement pour le caractère obligatoire, parce que là, au moins, vous ne vous posez pas la question. En tout cas, vous ne faites pas porter la responsabilité de cette mixité sur la bonne volonté des organisations. Là, au moins, c'est clair, tout le monde y a droit.
Effectivement, quelque part, la qualité du service civique telle qu'elle a été atteinte aujourd'hui, c'est plutôt le fruit du travail des organisations d'accueil. C'est vraiment elles qui ont fait le service civique, etc. Sur l'obligation, oui, vous avez raison, mais alors, ok, on aurait une mixité sociale, tout le monde y accéderait, l'ensemble de la jeune génération. Mais une fois qu'on a fait ça, moi, je suis plus sensible à ce qui se trame au cours de l'expérience. Parce que une expérience d'engagement obligatoire qui est ratée est une expérience qui aura des effets à très long terme sur les velléités d'engagement, y compris de vote. Si vous analysez les parcours d'engagement des jeunes, on voit par exemple que des jeunes déçus à l'école ne se réengagent pas immédiatement. Il va falloir qu'ils trouvent une nouvelle opportunité qui fait sens différemment et qui généralement prend des contours quasi opposés à ce qu'ils ont vécu à l'école dans un dispositif de consultation par exemple. Donc les effets sont à long terme. On construit les expériences vécues jeunes, enfants, jeunes, etc., ont des effets à long terme dans les parcours d'engagement. C'est très important. C'est là aussi qu'est la responsabilité de l'État.
Lila Lebas.
Oui, je trouve ça très intéressant et je voudrais revenir dessus. C'est là où nous, justement, on dénonce un petit peu cette incohérence quand on veut imposer un engagement. Là, quand dans la période test, il va y avoir 2 semaines où les jeunes vont devoir s'impliquer au service de l'intérêt général, selon ce qui est écrit dans la plaquette sur le SNU, dans une structure.
Voilà, il y a d'abord ces 2 semaines avec des modules qui sont proposés, je le disais, des bulletins de santé, code de la route, esprit civique, des choses aussi sur les questions de défense. Enfin, il y aura énormément de choses. Et ensuite, et après, une deuxième période de 15 jours où là, ce sera vraiment de l'engagement in situ, quoi, si j'ai bien compris.
Voilà, de l'engagement dans des structures qui voudront bien accueillir des jeunes, du coup, en SNU. Sauf que je trouve ça, justement, assez paradoxal qu'on construise, pour la plupart, leur première expérience d'engagement sous le cadre de la contrainte, sous une approche un petit peu, je trouve, punitive. On les oblige à avoir un engagement d'une durée de 2 semaines dans une structure, alors même que justement ça a une conséquence après sur la vision de l'engagement tout au long de la vie, alors qu'on pourrait justement à 16 ans, puisque c'est à peu près les âges auxquels les jeunes vont faire leur période obligatoire d'un mois de SNU, valoriser toutes les expériences sur la base du volontariat avec le service civique. Et je pense que c'est un outil qui aujourd'hui serait à même à développer quand on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent en faire un, mais qui ne trouvent pas justement de place dans des structures, faute de moyens pour les accueillir, faute d'offres d'engagement en service civique. Et donc développons les offres sur la base du volontariat d'engagement et faisons-en la communication pour justement éviter ces biais sociaux de sélection sur Bac plus 5 pour pouvoir faire un service civique, ou même d'information, puisqu'on sait bien évidemment qu'il y a des biais sociaux dans l'accès à l'information de l'engagement.
J'évoquais tout à l'heure, Lila Lebas, votre ancienne casquette de présidente de l'UNEF, qui n'est pas si ancienne. Pour vous, l'engagement, ça s'est passé comment justement? C'est-à-dire comment est-ce que vous êtes amenée? Alors j'imagine que vous n'avez pas été directement présidente de l'UNEF, c'est peut-être aussi passé par d'autres organisations, mais en tout cas, comment ça s'est fait sans que vous ayez eu besoin, puisque évidemment ça n'existait pas, de passer par le service national universel?
C'est sûr, je ne suis pas passée par ce service national universel, et puisque j'ai 10 ans de plus que ces jeunes, puisque j'ai 10 ans de plus que ces jeunes, j'ai eu la chance d'y éviter. Je suis pas là pour raconter mon expérience.
Non, mais c'est aussi intéressant parce que
de
savoir
rapidement,
comment.
Ouais. Moi, j'ai commencé à m'engager justement à 17 ans en arrivant à l'université et en voyant les conditions d'études assez déplorables qu'on avait quand on rentrait en licence 1, donc en première année à l'université. Et j'ai commencé à m'engager comme ça en me disant que ce n'est pas normal et qu'on n'avait pas des bonnes conditions pour réussir. Et j'ai eu un engagement syndical, du coup, tout au long de ma scolarité dans l'enseignement supérieur. Donc j'ai découvert l'engagement en arrivant à l'université, puisque au préalable, au lycée ou au collège, je viens pas d'une famille particulièrement engagée. C'est effectivement pas des choses qui m'étaient proposées. Mais donc on a différents temps de la vie aussi pour découvrir l'engagement. Et c'est ça aussi que je veux signaler, c'est qu'on a un peu comme une épée Damoclès qu'on impose aux jeunes. il faut s'engager de telle manière en faisant telle chose. Je pense que l'engagement, c'est aussi des personnalités qui permettent, c'est des parcours qui permettent de construire des personnalités, qui permettent de construire des parcours d'engagement plus ou moins longs. Moi, je me suis engagée, j'ai fait du coup presque 8 ans de syndicalisme étudiant. Bon, il peut y avoir des parcours beaucoup plus courts, avec des engagements beaucoup moins intenses. Et je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les différentes formes d'engagement. Donner une heure par semaine pour une association ou 35 heures, voire 72 heures dans un syndicat étudiant. Je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie et du coup qu'il faut pouvoir valoriser ces engagements, mais du coup les construire avec les envies des jeunes et pas leur imposer.
La valorisation, elle est suffisamment importante aujourd'hui, justement, Nadia Belaoui, la valorisation de ses engagements. En termes de... Il n'y a pas de diplôme quand on est dans une association. Je disais quand même l'importance que ça peut avoir sur un CV, hein, quand on passe dans l'enseignement supérieur, quand on cherche des stages, beaucoup, puisque c'est quand même la voie principale pour accéder au marché de l'emploi. Il faudrait valoriser davantage ces engagements.
Vous l'avez dit, l'université, les employeurs reconnaissent de plus en plus effectivement l'apport en termes de compétences dites sociales de l'engagement. Et globalement, quand même, il y a une prise de conscience de l'intérêt pour les personnes et pour la société, effectivement, d'avoir justement des expériences collectives. Bon, on peut même espérer que chez les décideurs, parmi les hommes et les femmes politiques, il y ait une réelle prise en compte du fait que la participation des citoyens entre deux élections est utile pour faire des bonnes politiques. Donc, si ceci est vrai globalement, c'est particulièrement vrai pour le service national universel. C'est impensable, pour reprendre un de vos termes, d'imaginer que les jeunes soient passifs dans les 15 jours de découverte de l'engagement. C'est-à-dire que si on imagine qu'on découvre l'engagement en subissant des contenus livrés par des personnels d'autorité, on tirera vite un constat d'une occasion ratée.
Hein. L'école, ce sont bien à l'école, on est confronté à des personnels d'autorité. Il faut bien en passer par là aussi pour faire un certain nombre de découvertes. Quand on est jeune, il faut bien aussi des phases d'apprentissage. Et l'engagement est peut-être une de ces phases d'apprentissage, non ?
Les jeunes disent eux-mêmes, nous cherchons à avoir une expérience, à découvrir. C'est l'expérimentation. L'apprentissage dans une association se fait par l'expérimentation, par l'expression, par le débat. C'est une autre modalité d'apprentissage que l'apprentissage académique. Je ne dis pas d'ailleurs qu'à l'école, on ne gagnerait pas aussi, et c'est le cas, à introduire ce type de position d'apprenant engagé, actif, créatif même.
Et Valérie Becquet ?
Oui, je disais, on en est loin quand même. Enfin, la question des pédagogies, elle va se poser effectivement dans ce SNU. S'ils les mettent dans des classes et leur font classe pendant 15 jours, ça va être une catastrophe.
Ça va être assez varié en termes d'encadrant. Il y aura des militaires, il y aura des enseignants,
vraiment travailler la pédagogie, vraiment, parce que sinon il y aura du rejet de se retrouver à nouveau à l'école. Donc la question de la pédagogie va être un challenge pour cette expérimentation. Et pour revenir sur les compétences, les fameuses soft, l'OCDE a très clairement mis en évidence que les compétences d'ici quelques années sont des compétences qu'on retrouve énormément dans l'engagement, et on se demande même si on les apprend réellement à l'école. Les questions de travail de groupe sont centrales. Les questions de prise de parole, de coopération sont centrales. Donc il y a des vrais enjeux. S'il y a des choses à faire, on peut faire tout un programme de choses à faire et à réussir, si on veut vraiment.
Bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ces 2000 jeunes là, qui vont expérimenter le SNU à partir de lundi ? Ouais, bonne chance pour Valérie Becquet, Lila Lebas.
Bon courage.
Bon courage.
En espérant que ça leur plaise, puisqu'ils ont 2 semaines. Donc, en espérant que ça leur plaise.
Ah bah ils sont volontaires, hein, voilà, fallait pas y aller. Hein. Nadia Belaoui.
À bientôt pour vous entendre, savoir s'il faut poursuivre ou se dépêcher de mettre un terme à l'expérience.
Bah voilà une idée de prochaine émission. Merci en tout cas à toutes les trois, donc Nadia Belaoui, Valérie Becquet et Lila Lebas, émission que vous pouvez réécouter et télécharger sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Cyril Marchand, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster et Léa Capuano. Émission réalisée par Peyré Legras, avec à la prise de son ce soir Pierrick Monsigny et
on va vous le souffler
et Laurie Vachon.